S'il fallait définir qui est Joseph Delteille en un mot, il faudrait se rendre à l'évidence, il y faudrait tout un dictionnaire. En patois d'ailleurs et en français. Patois, selon lui, est évidemment un mot qu'il préfère à occitan. A comme Ariège ou comme Aude, les origines. B comme Bouscassier, le métier de son père. C comme Cathare, son identité revendiquée. Jusqu'à Z comme zygomatique, offrant son sourire, son éternel sourire. En passant par J comme Jeanne d'Arc, son héroïne. Ou P comme paléolithique, un état idéal selon lui, etc. Mais ce dictionnaire reste à faire et serait fatalement voué à l'échec, tant sa personnalité a de multiples facettes. Joseph Delteille fut toujours trop ceci ou cela pour les uns, et pas assez ceci ou cela pour les autres. Pas assez surréaliste pour André Breton, pas assez parisien pour la critique et les cercles littéraires mondains, trop à contre-temps, à rebours, pour citer le titre d'un livre de Joris Karl Huysmans qu'il admirait tant dans sa jeunesse, et comme son héroïne Jeanne d'Arc, livre à la fois attaqué par la presse bourgeoise, par la Croix également, mais aussi par les surréalistes et par l'Action française. Donc on peut dire qu'il a été attaqué de toutes parts pour une Jeanne très incarnée. À l'apogée de sa carrière littéraire, il choisit l'exil, loin du monde, qu'il jugeait artificiel. Il va acheter un domaine viticole pour n'écrire qu'au rythme de ses envies, de ses inspirations. Une liberté affirmée, une indépendance souvent mal comprise. Né à Villars-en-Val en 1894, fils d'un bûcheron et charbonnier, donc bouscassier, donc homme des bois selon l'expression même de Joseph Delteille, et d'une mère qui resta toute sa vie sans savoir ni lire ni écrire, donc elle n'aura jamais connaissance des écrits de son fils, il eut une sœur, Marie. Marie et Joseph, d'ailleurs dans ces deux prénoms, on sent toute la foi qui anime cette mère, née Madeleine Sarda. Les origines de la famille sont ariégeoises, d'un hameau très proche de Montségur, d'où cette identité cathare dont il va se revendiquer toute sa vie. Brillant élève de l'école communale de Pieus, où ses parents ont acheté une maison, sa mère se met à espérer. Elle rêve avec le curé du village de faire de Joseph un autre curé, un futur curé du village de Pieus peut-être. On ne parle que le patois, comme il le dira, donc l'occitan au foyer. Il entre au collège de Limoux, puis au petit séminaire à Carcassonne. Adolescent, il adhère au Sillon, qui est un mouvement de catholiques sociaux animé par Marc Sangnier, et il va publier dans la publication Le Soc, qui est la revue de ce mouvement, les premiers écrits. Le bac en poche, il sera clerc de notaire chez Maître Ozoui à Limoux en 1913. Mais son premier amour en littérature sera pour les Parnassiens et Victor Hugo, puis Henri de Régnier, les symbolistes, pour leur usage des mots, et le détachement du réel de leur langue. Il sera mobilisé pour la Première Guerre mondiale, mais passera, selon sa propre expression, la guerre les pieds au chaud, au camp de Fréjus, à l'état-major du 4e régiment colonial, où il sera notamment en charge d'accompagner les régiments de tirailleurs sénégalais vers le front. Il commence à publier ses premiers poèmes, et démobilisé, il entre par concours aux contributions indirectes en 1919. Il sera affecté à Fraise, dans les Vosges. Son recueil de poèmes, Le cœur grec, sera couronné par le prix Archon d'Espérouse en 1920. Cette notoriété le mènera à Paris pour accepter un poste au comptoir d'escompte qui lui a été procuré par l'entremise du directeur de la revue des Belles Lettres. Ce départ pour Paris marque une double rupture. Une séparation de la famille, de ses amis, du pays, mais aussi un abandon de ce qu'il avait appris, des préjugés. Il dit « Je n'ai pas de mémoire, ce qui n'a pas de racine dans mon esprit disparaît facilement. » Il mettra néanmoins 15 ans, comme il le dit par ailleurs, à se libérer de ce qu'il avait appris en 15 ans. puis il entrera au sous-secrétariat de la marine marchande. Vers 1921, il se met à lire les auteurs contemporains et ce sera pour lui un grand choc. Giraudoux, Blaise Cendrars et surtout Pierre Macorlan vont le marquer. Ce fut une libération, comme il le dira. Désormais, il se met à écrire selon son instinct. C'est ce qu'il dit en tout cas en ajoutant « Le sauvage est revenu à la surface, absolument nu ». Son premier roman, en 1922, Sur le fleuve à Amour, sera publié grâce à l'entremise de Pierre Macorlan et le fera remarquer par Aragon, qui l'introduira dans le cercle d'André Breton. Plus enclin à cultiver ses amitiés dans le cercle surréaliste qu'à en respecter l'orthodoxie, il sera rejeté par Breton après la publication de Jeanne d'Arc. Ce livre a été couronné par le prix Femina en 1925 et sera la base d'un film qui va être mis en image par Carl Theodor Dreyer en 1928. La collaboration avec Dreyer ne se passe pas très bien et Joseph Delteille ne verra le film que 40 ans après sa première sortie. C'est Jeanne qu'il aima tant, qu'il considérait comme le livre comme le plus réussi de son œuvre. Delteille oppose deux visions de l'art, celle de Breton, qui est pour lui le dogmatique, celui qui tient une orthodoxie, et la vision de Picabia, qui est une vision du talent, voire du génie, et donc libre. Breton officialisera son excommunication par une lettre, dont Joseph Delteille dira « J'ai préféré la recevoir que l'avoir écrite ». Cette expérience lui vaudra néanmoins des rencontres et des amitiés, comme celle de Robert Delaunay, avec qui il partageait une vision de l'art, qui met en avant la volonté d'enfance plutôt que la volonté de puissance dans la création. Puis ce sera la rencontre avec Chagall qui fera grande impression sur Madame Delteille, surtout du fait de sa coiffure, lorsque Delteille entreprendra un voyage en terre audoise en automobile avec Delaunay et donc Chagall. Il avait quitté l'administration avant la publication de Jeanne d'Arc et signa chez l'éditeur Grasset. Il publiera une série consacrée aux grands personnages de l'histoire qui peuplent son panthéon, notamment Lafayette et Bonaparte. Les années 1930 vont inaugurer une nouvelle séquence de la vie de Joseph Delteille. Tout d'abord, la rencontre de celle qui deviendra bien plus tard sa femme, mais d'abord sa compagne, à savoir Caroline Dudley, qui avait monté la Revue Nègre en amenant des artistes de sa terre américaine natale à se produire à Paris, notamment Sidney Bechet et Josephine Baker.
En bas, vers lui jette en les bras.
Caroline Dudley, qui évoque sa rencontre avec Joseph Delteille.
Et puis, j'arrivais à Paris et j'étais un jour avec Pasquin. Il a dit, mais qui vous aimerait connaître à Paris? Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais j'aimerais connaître Delteille, qui a écrit Jeanne d'Arc, et puis j'aimerais connaître Paul Valéry. Bon, il a dit, je ne connais pas Paul Valéry, mais je connais un éditeur qui a édité Delteille. Et voilà. Alors, nous avons pris un taxi, nous sommes allés chez l'éditeur. Et il a dit, voilà une dame qui veut connaître Delteille. Alors, l'éditeuresse a dit, mais personne ne connaît Delteille. Il vient, il part et c'est fini. Alors, elle a dit, si vous voulez acheter du vin, ils vendent le Blanquette de Limoux. Vous pouvez le voir. Alors j'ai commandé un petit peu de Blanquette de Limoux. Et il est venu.
En 1931, il reçut la Légion d'honneur qu'il n'accepta, dit-il, que pour faire plaisir à papa et me justifier aux yeux de ma maman. Une pleurésie le cloua au lit pour 3 mois et l'incita à prendre une décision. « Choisir entre le métier d'écrivain et la poudre d'escampette », dira-t-il. Il choisit cette dernière option. C'est ainsi qu'il vint à acheter un bien près de Montpellier, à Grabel, la Tuilerie de Massane. Elle sera son domicile pendant les 40 ans qui suivront jusqu'à son décès en 1978. Il prend un rythme d'écriture très différent et ne publiera que peu de livres, parmi lesquels il faut citer Jésus II en 1947.
Ça vise l'ambition dans ce livre de montrer toute la carrière d'un homme qui serait à la recherche de la vraie vie. C'est tout le thème, en somme, de ce Jésus II. Ça s'appelle Jésus II uniquement parce que le héros de ce livre est un peu fou, je dis un peu et même en réalité un vrai fou, et il veut essayer de changer le monde, de refaire ce qu'a fait Jésus Ier, une révolution sociale dans le monde. Et finalement, d'ailleurs, ça se termine par un échec.
Mais il échoue aussi, je crois, parce que vous pensez que toute révolution va vers un échec.
Oui, évidemment, peu à peu, je me suis aperçu. Je devais être révolutionnaire de naissance, et en tout cas, dans toute la période littéraire de ma vie. C'est une période qui semble purement révolutionnaire dans le sens-là. Parce que le mot révolution m'a toujours paru avoir 2 significations. Ou bien un changement du personnel gouvernemental ou de quelques ustensiles, de quelques instruments de gouvernement. Et peu à peu, je me suis aperçu que ce n'était pas ça le problème. La véritable révolution serait de changer de fond en comble la société elle-même, d'abolir les ingrédients qui, à mon avis, ont falsifié la nature de toute société, qui sont des choses comme la possession, par exemple, n'ont été inventées qu'il y a 10 ou 15 000 ans. Mmh. Ce sont des choses toutes récentes. Nous nous imaginons que nous vivons dans un temps et à une époque qui date de toute éternité. Ce n'est pas exact. Si on regarde les choses en perspective, dans la perspective des millénaires qui sont avant nous, on s'aperçoit que depuis 15 000 ans, nous vivons dans des conditions purement acquises, purement inventées, à partir du moment où l'homme, qui primitivement était un nomade, qui passait sa vie à aller de coin en coin, à voyager, à se nourrir de cueillettes, de chasse et de pêche, un jour vint où cette humanité s'est installée à... s'est assise, pour employer un mot rimbaldien, et à partir de ce moment-là, tous les malheurs ont commencé, à mon avis. Je ne sais pas, je vois ça comme, à partir du moment où il y a la propriété, je vois ça comme si vous jetez un os entre quatre ou cinq chiens, par exemple, et ils se battent férocement, et c'est pour s'arracher l'un à l'autre les os. À partir du moment où il n'y a rien à s'arracher, à se convoiter, je crois que l'humanité primitive n'avait aucun besoin de guerre.
Quelles étaient vos pensées, enfin, quand vous avez écrit Jésus II, votre réflexion tourne autour de ces thèmes?
Oui, oui, certainement. Tous ces thèmes sont d'ailleurs, au fond, dans Jésus II, non pas peut-être à l'état d'exposition, mais inclus souterrainement.
C'est ce que... Ce sont les racines du livre.
C'est ce que Jésus II avait compris, avait voulu faire, changer la société, non pas dans un détail quelconque, non pas de la faire passer du système démocratique au système communiste ou au système ci ou ça. Ces choses-là me semblent de tout menu détail qui sont toujours à l'intérieur du problème. Si on passe à l'extérieur du problème, toute la question est d'abolir ce qui, dans l'humanité, constitue ces sources de malheur, à retourner, non pas au passé, je n'aime pas ce mot, mais à retourner au point précis où l'humanité avait acquis la plénitude de sa vitalité, de ses fonctions, et de repartir à zéro, alors du bon pied.
Une solide amitié le lira à Henry Miller, dont l'univers littéraire est pourtant très éloigné du sien. Après la publication de son Saint François d'Assise en 1960, il a le sentiment d'avoir accompli son œuvre. Il publiera d'ailleurs ses œuvres complètes en 1961, qui ne sont pas du tout complètes car elles ne regroupent que 6 de ses livres. D'autres suivront encore, dont La cuisine paléolithique en 1964. Une grave maladie du cœur le confronte une nouvelle fois à la mort en 1966 et il publiera La Deltaïrie en 1968, qui est un peu un inventaire de la vie plutôt qu'une autobiographie au sens propre du terme. Il revendique son statut de paysan, de paléolithique, car il est convaincu que l'homme reprendra le chemin de ses instincts après avoir pris conscience du fait que le progrès n'existe pas, ou tout au moins qu'il n'est que superficiel, commercial, industriel.
L'avenir de l'humanité, vous savez, mon avenir, je le vois surtout sur le plan littéraire. J'ai l'impression que ce que j'ai écrit n'a pas tellement collé avec l'époque que j'ai vécue. J'ai l'impression que de plus en plus, ce que j'ai écrit sera dans la ligne de la jeunesse future. Vous savez que je ne me suis jamais préoccupé d'écrire conformément à une école ou selon des règles ou des exemples de mon temps. Au contraire, j'ai l'impression qu'on a raté une grande révolution en littérature après la Grande Guerre, en 1925-30. Il pouvait, à mon avis, y avoir une révolution totale qui aurait supprimé toutes les façons d'écrire, toutes les méthodes, toutes les grammaires existantes. Et au lieu de ça, le mouvement a dévié, à mon avis, du côté de l'esprit, du côté des doctrines où il ne produit à peu près rien. Ce que j'ai voulu, c'est, dans ma vie, écrire non pas comme un recteur ou comme un professeur, mais mes grands modèles, c'était les bêtes, les plantes. J'ai toujours l'impression que toute chose vivante a son langage spécifique et qui est le meilleur par conséquent. Et j'ai eu l'impression que seul l'homme n'a pas son langage. Il continue à utiliser un langage appris dans les écoles, dans les collèges, dans les universités. Et j'ai l'impression que là aussi, un mouvement se dessine pour essayer de retrouver ce que j'appelle le langage de l'espèce humaine. J'ai toujours l'impression que si je lisais mes livres dans une forêt, comme la forêt de la Galope, les arbres eux-mêmes seraient intéressés par mes livres. J'ai toujours écrit pour la joie des hommes. Mon désir le plus profond a toujours été qu'en lisant un de mes livres, quelqu'un passe une journée agréable et compte cette journée comme une journée de plaisir. Et j'ai toujours l'impression que c'est à peu près le même dans l'ensemble de la nature.
Et c'est en pensant à cela que vous avez écrit, par exemple, « Je serai compris dans 30 ans quand reviendra le règne de l'instinct ».
Oui, c'est ça. Je pense profondément que ça commence à être compris à peine, mes ouvrages. Et que c'est peu à peu, lorsque l'instinct reprendra sa place et sa valeur dans la pensée de l'homme, je crois que ça va venir, peut-être assez rapidement. L'époque de la raison me semble à son terme, de la raison en tant qu'instrument froid et précis. De plus en plus, toute la jeunesse nouvelle, en tout cas, se range derrière le drapeau de l'instinct. Et il me semble que même dans les questions de gouvernement et de législation, on s'oriente de plus en plus vers un appel au profond instinct de l'homme. Je crois que je serai compris, en effet, dans 20 ans, dans 30 ans, je crois que mes livres seront exactement dans leur milieu naturel et que leur reviendra.
On pourrait donc dire, en forme de conclusion, que Delteil commence.
Oui, c'est tout à fait mon impression.
Joseph Delteil, un écrivain libre et qui nous libère par ses écrits.